Europe 1 Soir.
19h-20h, Céline Géraud.
Bonsoir à tous et bienvenue à bord. Europe 1 Soir, c'est votre rendez-vous d'information de ce début de soirée sur Europe 1. Dans ce journal, l'ex-premier ministre François Fillon définitivement condamné dans le cadre de l'affaire concernant les emplois fictifs. Mais il y aura un nouveau procès pour revoir les peines, tous les détails dans quelques instants. Dans cet Europe 1 Soir, coup dur pour les salariés de Casino, de 1300 à 3200 postes pourraient être prochainement supprimés. Nous parlerons aussi de cette décision du Parlement européen qui a voté de manière définitive la révision de la directive sur la lutte contre la traite des êtres humains. La GPA, la gestation pour autrui, est désormais reconnue au même titre que l'esclavage ou la prostitution forcée. Qu'en pensez-vous? Venez réagir dès 19h20. On en débattra avec vous au 01 80 20 39 21. Et puis Emmanuel Macron a chaussé les crampons pour un match du Variété Club de France cet après-midi dans les Yvelines. Un match au profit des pièces jaunes. Rendez-vous à la fin de ce journal. La tendance météo, Marlène Duret.
Après une matinée encore bien fraîche, les températures vont commencer à remonter demain après-midi pour atteindre des valeurs de saison ce week-end. Et côté ciel, un régime d'averses, surtout dans le sud-ouest. Un ciel plus variable au nord, du soleil et moins de vent dans le sud-est. On fait évidemment un point complet à la fin du journal.
Europe 1. Et on ouvre cette Europe 1 Soir avec l'interpellation d'un mineur de 16 ans au domicile de ses parents en Savoie cet après-midi. Antoine Bienvaux, cet adolescent projetait un attentat terroriste pendant les Jeux Olympiques.
Oui, selon nos informations, cet adolescent fiché S de nationalité française projetait de commettre un attentat suicide pendant les Jeux Olympiques. Il voulait agir dans le quartier de la Défense en utilisant un fusil ou une ceinture explosive. Ce sont des messages postés sur la messagerie cryptée Telegram qui ont alerté les enquêteurs. Le jeune homme y affirmait vouloir se procurer les éléments nécessaires à la fabrication d'une ceinture explosive et vouloir mourir en martyr au nom du califat islamique. Un document d'allégeance à l'État islamique a d'ailleurs été retrouvé par les enquêteurs lors de leur perquisition. Le suspect est lui actuellement en garde à vue. Le parquet national antiterroriste s'est saisi du dossier et a ouvert une enquête pour association de malfaiteurs terroristes criminels. La garde à vue devra maintenant déterminer la réalité de son projet et son état d'avancement.
Les précisions d'Antoine Bienvaux pour Europe 1. Je reviens maintenant sur l'affaire Kenji Girac. Le chanteur a été blessé, souvenez-vous, par balle au thorax, c'était lundi, dans sa caravane du côté de Biscarrosse, dans les Landes, et dans des circonstances qui restent encore à définir. Stéphane Place, vous êtes le correspondant Europe 1 dans le Sud-Ouest. Kenji Girac a été entendu par les enquêteurs dans sa chambre d'hôpital.
Oui, c'est ici à Pessac, à l'hôpital Olévêque, après avoir reçu le feu vert des médecins, que les gendarmes se sont rendus cet après-midi pour interroger Kenji Girac, avec toujours le souci de reconstituer l'enchaînement détaillé des faits qui ont eu lieu en fin de nuit dans le huis clos de cette caravane stationnée sur l'aire de passage, accueillant les gens du voyage à Biscarrosse. Vous le savez, dès les premières heures, l'artiste grièvement blessé a expliqué qu'il avait lui-même commis une erreur de manipulation de ce pistolet provoquant un tir accidentel. Les premières constatations, d'après une source proche de l'enquête, iraient effectivement dans le sens d'une balle tirée depuis l'intérieur de la caravane où se trouvait le vainqueur de The Voice en 2014. De nombreux témoins ont été entendus, dont la compagne de l'interprète par la section de recherche de Pau, car tout l'enjeu est de vérifier, de recouper la version donnée par Kenji Girac en la comparant avec les récits des autres personnes présentes sur place, avec les éléments de police technique et scientifique. Et parmi les analyses déterminantes attendues, il y a bien sûr celle du Colt 45 qui avait fini par être découvert dans la journée de lundi dans un buisson sur indication de membres de la famille de Kenji Girac. Ce soir, le procureur de Mont-de-Marsan annonce qu'il tiendra une conférence de presse sur cette affaire demain après-midi.
Merci à Stéphane Place à Bordeaux en direct pour Europe 1. Cette bonne nouvelle maintenant, si vous avez prévu de voyager demain, c'est un jeudi un peu moins noir que prévu dans les aéroports, mais toujours de fortes perturbations. Le préavis de grève du principal syndicat de contrôleurs aériens a finalement été levé après une nuit de négociations. Et du côté de la SNCF, lundi, souvenez-vous, un accord a été signé avec les principaux syndicats pour aménager les fins de carrière des cheminots, des contrôleurs. La direction du groupe a donc cédé pour éviter une grève massive lors des ponts du mois de mai, mettant du même coup un sacré coup de canif dans la réforme des retraites adoptée au forceps il y a toujours un an. Une décision, Jacques Seret, qui met quelque peu dans l'embarras l'exécutif.
Oui, l'État étant l'unique actionnaire de la SNCF, nous avons posé la question à Bruno Le Maire à l'issue du Conseil des ministres. Que pense-t-il de cet accord qui efface en grande partie l'impact de la réforme des retraites pour les cheminots? Les conducteurs, par exemple, pourront entamer une cessation d'activité 30 mois avant leur retraite, avec 15 mois non travaillés rémunérés à 75%. Réponse laconique du ministre de l'Économie.
Je vous renvoie aux décisions de la direction de la SNCF. Je pense que c'est à elle de vous apporter tous les éléments d'explication sur un accord qui est un accord syndical.
Vous le saluez ou vous le regrettez?
Je n'ai pas d'autres commentaires à faire.
Bruno Le Maire renvoie donc vers Jean-Pierre Farandou, le PDG de la SNCF, nommé par Emmanuel Macron. Pas d'autres commentaires à faire, dit le ministre. Juste après lui, la porte-parole du gouvernement, Prisca Thévenot, tente malgré tout de justifier cet accord avec un argument pour le moins surprenant.
Moi, ce que je vois, c'est un accord de fin de gestion de carrière, et notamment sur les fins de gestion de carrière pour les carrières pénibles. Et donc, ça, quand même, respecte l'esprit de la réforme des retraites que nous avons menée l'année dernière.
Une réponse qui dit beaucoup du coût de la paix sociale à 3 mois des Jeux Olympiques.
Jacques Seret du service politique d'Europe 1. La paix sociale, mais à quel prix? Eh bien, on se posera la question justement à partir de 13h20 avec Agnès Verdier-Molinier, directrice de la fondation IFRAP et auteure de « Où va notre argent ?» aux éditions de l'Observatoire. Et vous, chers auditeurs d'Europe 1, bien sûr, au 01 80 20 39 21. 19h06, cela fait déjà 7 ans. Le feuilleton judiciaire de François Fillon n'est pas terminé. La Cour de cassation a validé cet après-midi le jugement de la Cour d'appel qui avait condamné l'ancien Premier ministre, mais elle casse la décision relative aux peines prononcées et aux dommages et intérêts à verser. Maïalène Trémollet, il y aura donc un nouveau procès.
La culpabilité de François Fillon est confirmée. Lui, sa femme et son ancien suppléant avaient été condamnés pour détournement de fonds publics et complicité. Une décision décevante pour Patrice Spinozzi, l'avocat de François et Pénélope Fillon.
Déception parce que nous avions les arguments au fond, qui étaient des arguments juridiques et qui étaient tout à fait pertinents. Les époux Fillon s'interrogent aujourd'hui de saisir la Cour européenne des droits de l'homme.
En revanche, source de satisfaction pour le camp Fillon, la Cour de cassation demande à la Cour d'appel de réexaminer sa peine. L'ancien Premier ministre avait écopé de 4 ans de prison, dont un ferme.
Une petite victoire. L'annulation de l'ensemble des peines qui avaient été prononcées, la peine d'emprisonnement ferme qui avait été prononcée contre lui. Il a été jugé que la Cour d'appel avait eu la main trop lourde, les montants étaient excessifs en considération de la réalité.
Un quatrième procès va donc être audiencé. Outre de nouvelles peines, la Cour d'appel devra réexaminer le montant des dommages et intérêts qu'elle avait fixé à 800 000 euros, une somme que devait verser le couple Fillon à l'Assemblée nationale.
Maïalène Trémollet du service politique d'Europe 1. Et alors que le conflit entre Israël et le Hamas a débuté il y a 200 jours, le ministre de la Défense israélien annonce que les forces israéliennes mènent une action offensive dans le sud du Liban. Il affirme aussi que la moitié des commandants du Hezbollah dans cette région ont été éliminés. 19h07, on reste bien ensemble. Europe 1 Soir, la suite dans quelques instants. Nous irons à Grande-Synthe pour les obsèques du jeune Philippe, assassiné le 16 avril. Jusqu'à 3200 emplois menacés dans le groupe Casino. Et puis Emmanuel Macron qui chausse les crampons pour un match de football au profit des pièces jaunes. Alors à tout de suite sur Europe 1.
Europe 1 Soir, 19h-20h, Céline Géraud.
Allez, 19h09, on est ensemble jusqu'à 20h avec vous et dans cette Europe 1 Soir, on va partir maintenant à Grande-Synthe pour les obsèques de Philippe Kopmann, ce jeune homme de 22 ans sauvagement assassiné le 16 avril sur un parking. 500 personnes s'étaient rassemblées dans l'église Saint-Jacques pour rendre hommage à ce jeune éducateur. Il y avait de l'émotion, mais aussi de la colère. Lionel Gougelot.
Sur une chanson de Gims, la famille de Philippe fait corps devant le cercueil surmonté d'une photo du jeune homme. Beaucoup de larmes dans l'assistance. L'abbé Cartio résume en quelques mots le sentiment général.
Et sans doute qu'en cet instant, tous ici, quelles que soient nos convictions, nous portons cette question pourquoi? Pourquoi une telle violence? Pourquoi un tel drame? Pourquoi?
Cette question de la violence aveugle de ces 3 adolescents mis en cause, un cousin et sa sœur se la posent aussi dans leur hommage aux défunts.
Toi qui étais l'incarnation même de la gentillesse et du respect d'autrui. Tu méritais un bel avenir. La vie est injuste.
Quand je regarde tes photos, je te vois sourire. J'entends ta voix et mes larmes coulent.
Véronique a bien connu Philippe au centre de loisirs. Elle tenait à être présente auprès de ses proches.
On est désemparés totalement parce qu'on dit que moi j'ai des garçons de 23 ans, ça aurait pu être un des miens. aussi, parce qu'on est à l'abri de rien et qu'on doit rester solidaire pendant des moments pareils.
Et quand le cercueil sort de l'église, Caroline, une amie à la gorge nouée...
Ça fait mal, très très mal. Si jeune, il méritait, franchement, il ne méritait pas ça, vraiment pas. Et j'espère que la justice va être très dure avec ces jeunes et qu'ils soient jugés comme des adultes et pas comme des enfants.
Expression d'une colère qui désormais remplace la tristesse et l'émotion. À Grande-Synthe, Lionel Gougelot, Europe 1.
Et sachez qu'un troisième mineur, un suspecté d'avoir participé à l'agression de Philippe Kopmann, a été mis en examen aujourd'hui pour meurtre avec préméditation et placé en détention provisoire. C'est un coup dur pour les salariés du groupe Casino. Dans le cadre d'un vaste plan social présenté aujourd'hui, le groupe pourrait supprimer entre 1300 et 3200 postes prochainement. Barthélémy Philippe, quels sont les sites concernés ?
Eh bien, selon le plan présenté aux représentants du personnel, même le siège historique de Casino basé à Saint-Étienne va payer un lourd tribut sur les 1500 postes actuels. Des fonctions support, un peu plus de 550 doivent être supprimées. Par ailleurs, des menaces pèsent sur les 27 supermarchés grand format et les entrepôts qui n'ont pas été repris lors de la vente fin 2023. On parle notamment de magasins situés à Dijon, Vénissieux, Bourges ou Nantes. Faute de candidats dans les prochaines semaines, ils seront fermés, ce qui entraînerait la suppression de près de 2000 emplois, dont 740 au sein de la filiale logistique Isidis qui gère les entrepôts de Besançon, Toulon, Limoges et Gaël en Ille-et-Vilaine. Après la cession de la plupart de ses hyper à Intermarché, Auchan et Carrefour, Casino n'emploie plus que 28 000 personnes, alors que le groupe employait 50 000 salariés en France fin 2022. Ce chiffre va encore baisser avec l'annonce ce matin du plus grand plan social depuis le début de l'année en France.
Barthélémy Philippe du service économique d'Europe 1. On l'a appris il y a quelques minutes, le Parlement européen a voté de manière définitive la révision de la directive sur la lutte contre la traite des êtres humains. La gestation pour autrui, GPA, est désormais reconnue au même titre que l'esclavage ou la prostitution forcée. C'est une décision qui fera date et on en parlera évidemment dans Europe 1 soir à partir de 19h45. Et si vous souhaitez réagir, eh bien appelez-nous dès maintenant 01 80 20 39 21. 19h13, tiens, si on parlait du printemps de Bourges, pourquoi ? Parce que c'est le premier festival de l'été, une 48e édition éclectique, populaire, qui accueille ce soir ses premiers artistes, Mika ou Kyo. Marie Jiquel, vous êtes sur place pour Europe 1, une première soirée qui s'annonce endiablée et déjà énormément de monde.
Oui, vous devez l'entendre, hein, Céline, derrière moi, hein, 250 000 festivaliers environ sont attendus ici à Bourges pour cette édition placée sous le signe de la fête. C'est ce que me confiait la direction après des années mouvementées par le Covid et une situation économique plus compliquée. Donc place à la fête avec une première soirée très pop, Mika, Zao de Sagazan ou le DJ Martin Solveig. Alors Céline, je vous propose d'écouter Boris Vedel, le directeur du Printemps de Bourges Festival, vous le disiez, hein, qui ouvre le bal des événements de l'été. Boris Vedel qui rappelle, à l'heure où des festivals comme les Vieilles Charrues sont menacés, l'importance de ces rendez-vous pour les territoires.
Je dis souvent, un festival c'est un centre de profit, c'est ce que je dis souvent aux élus, c'est un centre de profit, c'est pas un centre de dépenses, c'est un centre de profit. Le Printemps de Bourges, c'est presque 13 à 14 millions d'euros qui reviennent sur le territoire, pas simplement le département.
Au programme jusqu'à dimanche, Olivia Ruiz, Matt Pokora ou Eddie De Preto, mais aussi deux hommages très attendus. Un à Bob Dylan, orchestré par la chanteuse américaine Cat Power, dans la cathédrale Saint-Étienne de Bourges. Et puis ce soir, une création dédiée à Françoise Hardy, cela s'appelle Message personnel, avec notamment Clara Luciani. On suivra cela pour Europe 1, évidemment.
Mais bien sûr, merci beaucoup Marie Jiquel, en direct de Bourges et de son festival pour Europe 1. 19h15, Emmanuel Macron rechausse les crampons pour la bonne cause. 2 ans et demi après son dernier match avec le Variété Club de France. Le président de la République a donc retrouvé la pelouse de plaisir dans les Yvelines pour un match au profit des pièces jaunes. Cyril de la Morinerie, vous avez assisté à ce match de gala avec une belle brochette de stars du football et une belle ambiance. Hein.
et une victoire également du camp présidentiel, puisque l'équipe du variété Club de France, dans laquelle évoluait donc le président de la République, a battu 5-2 la formation d'Arsène Wenger. Robert Pires a marqué un triplé. Rudy Garcia a également fait trembler les filets pour l'équipe d'Arsène Wenger. Samuel Eto'o a marqué le premier but du match. Jacques Vendroux, qui était dans les buts, n'a rien pu faire. Et puis le président de la République, bien sûr, qui a évolué en blanc avec son numéro 3, a réalisé une prestation solide, bien aidé par Didier Deschamps, qui l'accompagnait au milieu de terrain. Et comme il y a 2 ans et demi, eh bien, le président s'est chargé de convertir un pénalty.
But marqué par le numéro 3, Emmanuel Macron.
Voilà, une frappe présidentielle croisée que le gardien n'a pas osé détourner. Hein, et dans le public, eh bien, on a été impressionné par le niveau de jeu du président de la République.
Honnêtement, tu vois, bien sportif et tout. Il n'est pas ridicule, j'ai vu faire des bonnes passes. Voilà, les contrôles pas mal aussi.
Étonné du niveau du président.
Du niveau du président.
Il a une bonne condition physique, parce qu'il arrive à tenir 45 minutes, c'est pas donné à tout le monde, et il est en jambes.
Et grâce à cette rencontre de gala, 57 500 euros ont été récoltés pour les pièces jaunes. Ce soir, le président de la République recevra à dîner les acteurs de cette rencontre à l'Élysée.
Merci pour ce moment, Cyril de la Morinerie, en direct de Plaisir dans les Yvelines pour Europe 1. Allez, on fait un point sur les marchés maintenant avec vous. Didier Hamot de Boursier.com, une petite baisse.
Oui, légère, très légère. -0,17%. Le CAC 40 finalement termine à 8 091 points dans un marché calme qui a réagi quand même au publication de résultats trimestriels des entreprises. Il y en a beaucoup en ce moment. Le secteur du tourisme était plutôt en forme avec la Compagnie des Alpes, avec Voyageurs du Monde, Pierre et Vacances qui progressent de 7 à 10%. En revanche, c'est beaucoup plus difficile pour Kering qui chute encore de 7%, 326 euros. Au plus bas depuis près de 7 ans. La marque phare du groupe de luxe Gucci a vu son chiffre d'affaires reculer de 19% au premier trimestre, sous la pression du repli des ventes en Asie. Et donc, ce soir, Kering abandonne encore 7% à la clôture. Ailleurs, en Europe, ça baisse un petit peu partout, c'est léger. Hein. Francfort, -0,3%. Bruxelles, -0,2%. Le CAC 40 en baisse de 0,17%. 8 091 points.
Merci beaucoup, Didier Hamot de Boursier.com. Et comme chaque soir, un point sur la météo, Marlène Duret. Et on n'échappera pas aux averses dans le sud-ouest demain.
Oui, on parle d'une zone qui englobe la Nouvelle-Aquitaine, le Midi-Pyrénées, l'Auvergne, le Berry aussi, et puis ensuite ça déborde un petit peu sur la région Rhône-Alpes et la Vendée en cours de journée, donc tout cela sous un ciel bien couvert. Prévoyez, oui, des averses, y compris au printemps de Bourges, et on a une petite pensée pour Marie Jiquel qui est sur place, comme on l'a entendu dans votre journal. Voilà, des nuages courts ont tendance aussi à envahir le Languedoc-Roussillon en journée, après une matinée ensoleillée. Le soleil qui, lui, résistera à l'est du Rhône, si on met de côté le petit risque d'averse dans les Alpes du Sud, vers le Mercantour. Et si vous êtes dans le sud-est, une très bonne nouvelle, moins de vent, ça fait 9 jours pour Céline que le Mistral balaye le Vaucluse, l'Ardèche, la Drôme, les Bouches-du-Rhône, avec des pointes qui dépassent les 90 km à l'heure. Demain, c'est fini, le Mistral se calme.
Et sur la moitié nord, le temps sera plus changeant.
Oui, disons que la journée va débuter sous de belles éclaircies entre les Pays de la Loire, le sud de la Bretagne, l'intérieur de la Normandie, l'Île-de-France, une bonne partie de la Bourgogne, et puis ensuite, on verra arriver les nuages qui pourront offrir une petite averse, sauf du côté de l'Île-de-France qui va rester au sec, sous un ciel partagé entre nuages et soleil, et pour la partie sud de la région Grand Est, c'est le contraire. Matinée maussade et puis ensuite ça s'améliore.
Et youpi, les températures remontent doucement mais sûrement.
Alors pas le matin, je précise, il fera encore un petit peu frais, couvrez-vous. On attend encore des gelées dans le Massif central, le centre-est, dans le Dijonais notamment, du côté de la Champagne, de l'Orléanais. Et puis dans l'après-midi, effectivement, ça remonte avec 11 à 15 degrés sur une vaste moitié nord et puis 14 à 18 en allant vers le sud.
Merci beaucoup Marlène Duret, c'était la météo et nous évidemment on est ensemble jusqu'à 20h, restez bien avec nous sur Europe 1 dans quelques instants avec mes invités. On va revenir sur la condamnation de François Fillon, comment décrypter la décision de la Cour de cassation, combien va nous coûter à nous contribuables cette paix sociale achetée par la direction de la SNCF, et puis le Parlement européen, on vient d'en parler, vient de reconnaître la GPA comme une traite des êtres humains. Qu'en pensez-vous? Venez réagir, Europe 1 Soir vous donne la parole, 01 80 20 39 21. À tout de suite.
Europe 1 Soir, 19h-20h, Céline Géraud.
Bienvenue chez nous, bienvenue sur Europe 1. Si vous nous rejoignez, on va évidemment décrypter l'actualité et on va revenir sur cette décision de la Cour de cassation qui a donc confirmé cet après-midi la culpabilité de François Fillon, de sa femme Pénélope et de son ex-suppléant Marc Jouot dans l'affaire des emplois fictifs. En revanche, la Cour de cassation ne confirme ni la peine prononcée par la Cour d'appel contre François Fillon, ni les dommages-intérêts. Bonjour Benjamin Morel.
Bonjour.
Bonsoir, même maître de conférence en droit public à l'Université Paris 2, Panthéon Assas. Alors, déjà pour nos auditeurs, expliquez-nous la décision de la Cour de cassation concrètement.
Alors, il faut voir que la Cour de cassation n'est pas là pour. C'est pas une cour d'appel, si vous voulez. C'est-à-dire qu'elle ne revient pas sur le fond d'un dossier. Elle tranche des points de droit. Est-ce que le droit, dans le cadre du procès, a été bien interprété, a été bien utilisé? Donc, ici, il y a plusieurs sujets qui se posaient, notamment suite à une question priorité de constitutionnalité posée par François Fillon. Donc, ça revenait du Conseil constitutionnel. Et l'une des questions qui était notamment posée, c'est est-ce qu'il y avait une atteinte à la séparation des pouvoirs, étant donné que, eh bien, on a affaire à un tribunal qui juge d'un contrat entre un député et sa collaboratrice, en l'occurrence Pénélope Fillon. Donc, est-ce que le fait que le juge mette son nez comme ça dans des affaires de travail au sein de l'Assemblée, ça ne pose pas de problème? La Cour de cassation dit non. D'où le fait que, sur le fond, il n'y a pas de problème. Ensuite, se poser un autre sujet, notamment celui de la motivation de cette peine de prison avec sursis, étant donné que la prison ne s'impose pas forcément pour ce type de crime ou de délit, et que donc, à partir de là, on ne la prononce que si on justifie le fait qu'elle est nécessaire, ce qu'on n'a pas fait la Cour d'appel, d'où le fait que cet aspect, je dirais, peine et dommages et intérêts, lui, ne passe pas sous les fourches caudines de la Cour de cassation. En revanche, le reste est confirmé.
Alors, Benjamin Morel, est-ce qu'on peut parler de défaite judiciaire pour les époux Fillon?
D'une certaine façon, oui, parce que même si évidemment la peine pose problème et peut-être sera-t-elle revue à la baisse, c'est la condamnation symbolique qui montre que là-dessus, et après avoir épuisé toutes les voies de recours internes, eh bien, il n'y a pas de possibilité aujourd'hui pour François Fillon de dire que il était innocent et qu'une injustice lui aurait été faite dans le cadre de cette affaire et évidemment de la campagne qui a pu être celle de 2017. Donc aujourd'hui, cette condamnation, elle est indélébile, ce qui évidemment pour un homme politique est quelque chose de toujours compliqué à porter.
Alors justement, oui, c'est la question que j'avais envie de vous poser. Il a renoncé à une carrière politique, François Fillon. Mais c'est une fin d'histoire compliquée pour un homme qui a compté pour la France. Et par rapport à tout ce qu'il a pu incarner, c'est quand même difficile.
C'est difficile. Alors, c'est jamais forcément déterminant, une affaire judiciaire, pour terminer une carrière politique. C'est quand même un choix de François Fillon. Mais on voit que dans les électorats aujourd'hui, en règle générale, une affaire judiciaire ne signifie pas forcément condamnation. D'ailleurs, l'électorat de droite aujourd'hui, quand vous prenez les enquêtes, est très défiant vis-à-vis des juges et ça date de l'affaire Fillon. Donc il y a eu de vraies inflexions sur le fond en la matière. Après, je dirais que il y a un héritage qui reste, risque de rester dans la mémoire collective,
c'est ça.
Se bornant à l'affaire Fillon. Et ça, évidemment, c'est complexe à porter. C'est complexe à porter quand vous ne rebondissez pas derrière. Or, il n'y a pas vraiment eu la volonté de rebondir, ni la possibilité partisane de rebondir.
Benjamin Morel, la suite désormais pour les époux Fillon, la prochaine étape?
On a un retour devant un juge du fond. Et là, étant donné que ce qui pose question, ce qui pose problème, c'est la question de la peine, on va probablement avoir un rejugement sur cette peine. On peut avoir quelque chose qui est en deçà de ce qui était prononcé pour François Fillon. La condamnation de Pénélope, elle est validée. Mais ça peut également être la même peine, mais cette fois-ci motivée.
Il va essayer, évidemment, François Fillon, d'échapper à une condamnation. Je veux parler d'un bracelet électronique ou de la prison ferme qui serait, pour le coup, infamante.
Qui peut être infamante. Alors après, encore une fois, c'est à relativiser dans la perspective d'une carrière politique. Le problème, encore une fois, c'est que il y a une question d'héritage idéologique et puis d'image. Mais fondamentalement... je dirais qu'on a aujourd'hui, malgré ce qu'on peut penser, une forme de distanciation de l'opinion vis-à-vis des affaires judiciaires. En fait, vos opposants jugent que de toute façon vous êtes coupable et que vous n'avez pas été assez condamné, et vos partisans jugent qu'on vous a condamné assez injustement. Ce qui fait que, et on l'a vu d'ailleurs dans l'affaire Fillon, François Fillon a certes perdu des plumes, dans cette affaire d'un point de vue sondagier, d'un point de vue électoral, mais il n'a pas perdu tant d'électeurs que ça. Hein. Le score de François Fillon n'est pas mauvais en 2017. Oui. Ce qui montre que là-dessus, il y a quand même une résilience électorale.
Et il leur reste effectivement la solution de saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Ils ont encore ce recours.
Oui.
C'est une voie de recours ultime.
Oui. Mais objectivement, les fondements d'une telle saisine conduiraient probablement pas la chose à aller très très loin. Mmh. Alors certes, toutes les voies internes ont été épuisées, ce qui est la condition pour saisir la CEDH, mais derrière ce qui est pointé ici, notamment la question de la séparation des pouvoirs qui a pu amener à la saisine du Conseil d'État, ce serait pas des motifs réellement déterminants dans la CEDH.
Un grand merci, Benjamin Morel, maître de conférence en droit public à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas, pour ce décryptage précieux sur l'affaire Fillon. On reste ensemble, dans quelques instants, on revient bien sûr pour la suite. On parlera justement de cet accord avec les aiguilleurs du ciel. Le syndicat majoritaire a trouvé un accord donc pour éviter un jeudi noir demain. Mais combien cela va-t-il coûter? On va évidemment reparler de cet accord avec la SNCF également, qui a été trouvé lundi. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1. Le journal permanent.
19h32, cette information, un mineur en garde à vue. Il avait annoncé sur les réseaux sociaux son intention de mourir en martyr. Le parquet national antiterroriste a ouvert une enquête pour participation à une association de malfaiteurs terroristes criminels en vue de la préparation de crimes d'atteinte aux personnes à la suite de l'interpellation hier. Lors de la perquisition du domicile des parents de ce jeune homme âgé de 16 ans et originaire de Haute-Savoie, différents documents manuscrits dont une déclaration d'allégeance à Daesh ont été découverts. Le Parlement européen reconnaît la GPA comme une traite des êtres humains. La gestation pour autrui est désormais reconnue au même titre que l'esclavage ou la prostitution forcée. Après un accord entre la Commission et le Conseil de l'Union, le Parlement s'est définitivement prononcé hier avec 563 voix pour, 7 contre et 17 abstentions. Duralex placé en redressement judiciaire, le tribunal d'Orléans, qui dit espérer trouver un repreneur, a nommé 2 mandataires judiciaires et renvoyé à une nouvelle date d'audience au 5 juin. La Cour de cassation a définitivement confirmé la culpabilité de François Fillon dans l'affaire des emplois fictifs de son épouse, mais la haute juridiction a ordonné un nouveau procès concernant les peines prononcées à son encontre et les dommages et intérêts. Israël mène une action offensive contre le sud du Liban. Le ministre israélien de la Défense a affirmé que la moitié des commandants du puissant mouvement Hezbollah dans ce secteur avaient été éliminés. Enfin, le trafic aérien perturbé en France demain, malgré un accord in extremis avec le syndicat majoritaire. Le préavis de grève des contrôleurs aériens français jeudi a prolongé des centaines de milliers de passagers dans le flou en Europe. Les transporteurs ne savent toujours pas quelle sera la capacité du contrôle aérien français demain.
19h-20h, Europe 1 Soir.
Et on poursuit évidemment l'aventure jusqu'à 20h avec vous au 01 80 20 39 21. Si vous nous rejoignez, on décrypte l'actualité et on va évidemment revenir sur ces menaces de grève qui se multiplient avec l'approche des JO. On est à 92 jours de ces Jeux Olympiques. Alors d'un côté, les aiguilleurs du ciel qui parviennent à leur fin, qui trouvent un accord in extremis, on vient d'en parler. La SNCF aussi qui capitule lundi face à la menace des syndicats. Bonjour Agnès Verdier-Molinier.
Bonjour.
Bonsoir même, directrice, puisqu'il est 19h34, directrice de la Fondation IFRAP et auteure de « Où va notre argent ?» aux éditions de l'Observatoire. On parle de paix sociale, mais à quel prix? Combien va nous coûter, nous contribuables, ces accords trouvés? On va commencer par la SNCF.
Écoutez, c'est la question, j'allais dire, à 100 euros, parce que finalement, on a très, très, très peu d'informations. Et nous, à la Fondation IFRAP, nous qui aimons bien justement chiffrer, eh bien, on s'est creusé un peu la tête pour essayer d'évaluer combien pourrait coûter cet accord, ne serait-ce que l'accord SNCF. Et au maximum du maximum, il nous apparaît qu'il pourrait coûter environ 10 fois plus cher que ça coûte aujourd'hui, oui. Cette possibilité de partir plus tôt, en fait, cette espèce de pré-retraite un peu spéciale, mm-hmm. qui existait déjà, en fait, depuis la réforme de 2008, c'était déjà quelque chose que nous avions critiqué à l'époque, puisque déjà à l'époque, la SNCF avait conclu des accords avec un échelon supplémentaire, avec des revalorisations de salaire, etc., etc., qui annulaient le décalage déjà d'âge qui avait été adopté sous Nicolas Sarkozy. Bah, on rejoue le même film, sauf que ça va coûter beaucoup plus cher. Hein. La Cour des comptes dit que cette cessation progressive d'activité par an, elle coûtait dans les 30 à 35 millions d'euros, mais c'était utilisé que par environ 10 à 12% des agents concernés. Maintenant, avec cette possibilité d'être payé pour les conducteurs pendant 18 mois à 100% en travaillant et ensuite à 75% sans travailler et puis un peu moins pour les contrôleurs, par exemple, mais ça va être beaucoup plus incitatif. Alors, il y aura peut-être pas 100% des personnes concernées qui l'utiliseront. Mais au maximum du maximum, bah, ça pourrait être 300 millions. Alors peut-être qu'en réalité, ce sera que une centaine de millions. Mais quand on dit qu'une centaine de millions, c'est déjà énorme. Parce
oui, c'est
qu'il
colossal.
Faut dire que déjà, le contribuable français, par l'État, finance pour équilibrer le système de pension des agents de la SNCF, hein, des cheminots de la SNCF, qui est donc très déficitaire. Il verse plus de 3 milliards d'euros par an. Donc, c'est quand même dommage que le petit effort qu'on demandait, hein, c'est-à-dire de passer de 52 ans à 54 ans pour les conducteurs et puis de 57 à 59 pour les contrôleurs, finalement... soit quasiment annihilé, parce que quand on regarde, et là aussi on a des problèmes de chiffrage, quand on regarde l'effet de la réforme des retraites qui a été adoptée, la dernière réforme des retraites adoptée, on se rend compte qu'on n'a pas l'économie annuelle chiffrée non plus par le gouvernement ou par les parlementaires, mais on sait que celle de 2008, en régime de croisière, elle économisait environ 300 millions d'euros par an.
C'est ça.
Donc vous voyez, il n'y a pas loin à imaginer que cet accord-là, SNCF, il va quasiment supprimer l'essentiel des effets de la réforme.
Et quand on sait qu'effectivement, le contexte économique est très compliqué, il y a la dette publique, il y a aussi tous ces Français qui se serrent la ceinture en ce moment. Et là, ce coup de poignard, on peut le dire, dans la réforme des retraites, il a du mal à être accepté aussi par les usagers qui sont en plus menacés à chaque fois d'être condamnés à rester chez eux, ne pas pouvoir voyager. C'est la double peine.
Oui, on se souvient des vacances de février qui ont été absolument ubuesques pour beaucoup de nos concitoyens, avec des annulations juste quelques jours avant des trains, des obligations de se reporter sur d'autres trains quand il y en avait, d'annuler complètement les déplacements. Enfin, tout ça est extrêmement dommageable. Et puis, on est vraiment dans un chantage hein, là des syndicats par rapport à la période des Jeux Olympiques. Nous, on s'y attendait vraiment et on trouve très, très dommage que le gouvernement n'ait pas embrayé suite au vote de la proposition de loi au Sénat. Cette proposition DLR qui était tout à fait cohérente, d'ailleurs qui reprenait ce que nous avions écrit, nous, dans pas mal d'études, où on montrait que, par exemple, les Italiens avaient certes un droit de grève, tout aussi fondamental que le nôtre, mais qui néanmoins n'allait pas à l'encontre de ce droit aussi fondamental d'avoir un service public de transport assuré pour les citoyens. Et les Italiens sanctuarisent les périodes d'élection, les périodes de vacances, les périodes de fêtes importantes comme Noël ou Pâques.
C'est pas encore le cas chez nous. Et Bruno Retailleau,
Et c'est dommage que cette proposition de loi qui a été adoptée début avril n'ait pas été finalement plébiscitée ou choisie par le gouvernement pour ensuite être votée à l'Assemblée nationale. C'était très simple, ce qu'il proposait, c'était 60 jours par an maximum pendant lesquels il n'y avait pas de possibilité de bloquer en fait tout un pays ou tous les visiteurs de ce pays, parce qu'aujourd'hui il faut voir l'image que ça donne de la France.
Et surtout à 92 jours des Jeux, vous l'avez dit effectivement, avec le chantage très facile, avec la menace de bloquer les Jeux. Alors vous restez évidemment avec nous, Agnès Verdier-Molinier. Je rappelle que vous êtes directrice de la Fondation IFRAP et auteure de Où va notre argent aux éditions de l'Observatoire, parce qu'on a des auditeurs qui veulent intervenir. Vous êtes très nombreux à réagir sur le sujet. Bonjour Valérie.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, retraitée, mais vous travaillez encore.
Avec plaisir.
Vous nous écoutez en Gironde. Alors vous souhaitiez réagir sur ce sujet qui concerne la SNCF et les aiguilleurs du ciel.
Bah écoutez, j'ai juste envie de rebondir aussi ce que disait l'intervenante précédente, dont, avec quoi je suis complètement d'accord. Moi, j'ai envie de vous dire, bon, j'ai une carrière de soignante, hein, hospitalière longue, par choix, et puis j'ai travaillé et dans le privé et dans le public, donc j'ai quand même un panel assez large. Mm-hmm. Public que j'ai quitté pour avoir reçu des menaces de mort pour essayer de remettre de l'ordre, hein, dans le bazar qui avait été instauré par les syndicats et le personnel. Ce que mon sentiment aujourd'hui et mon premier sentiment depuis ce début de semaine, c'est ils n'ont aucune pudeur, ils n'ont aucune retenue. Je suis scandalisée.
On était dans le même panier, j'ai envie de dire, les contrôleurs, les cheminots et les aiguilleurs du ciel.
Bien entendu, puisque de toute façon, ils ont la mainmise, ils ont le pouvoir. Forcément, qu'est-ce qui paye au bout du compte? On voit ces familles qui ne peuvent pas partir en vacances, ces gens qui ne peuvent pas se retrouver au jour de l'an. Maintenant, la mainmise qui est mise sur ces JO qui devait être une fête nationale. Enfin, on avait un moyen de se réjouir, enfin, dans ce paysage qui n'est quand même pas très gai, hein, ces dernières années. Et ils se servent de ça pour mettre parce que le gouvernement a forcément accepté, puisqu'on les ils brillent par leur silence, hein, aujourd'hui, pour mettre à genoux le gouvernement. Mais quelle honte! Mais qui peut me dire qu'un contrôleur a un métier dans un train, a un métier fatigant? Qui peut me dire aujourd'hui qu'un pilote de train, un conducteur de train a un métier fatigant aujourd'hui? Non, mais attendez, mais c'est une honte, il n'y a aucune pudeur.
Valérie, vous restez
avec
nous.
Moi, je suis infirmière à la base, hein, et je peux vous dire que là, on peut parler de métier. Et pourtant, vous les entendez beaucoup, les soignants, hein? Moi, pas.
Vous restez avec nous, Valérie, parce qu'on a Jean-Charles qui nous écoute dans les Hauts-de-Seine, qui veut réagir aussi. Bonsoir, Jean-Charles.
Bonsoir.
Merci. Alors vous, votre avis, votre position par rapport à cette grève, ces accords qui sont trouvés, ces menaces de grève, ce chantage?
Moi, je pense qu'il y a une énorme différence entre ce qui se passe à SNCF et ce qui se passe au niveau des contrôleurs aériens. Puisque, je dirais, au niveau de la SNCF, c'est, je pense, c'est à l'achat d'une paix sociale pour éviter que les grèves de février ne se reproduisent. Alors que la grève sur le contrôle aérien, enfin, le préavis de grève d'ailleurs qui a été levé, c'est, en fin de compte, c'est une réponse, je dirais, des contrôleurs aériens face, je dirais, à un projet qui est en cours et qui d'ailleurs auquel ils adhèrent, qui est d'augmentation de la productivité, qui va se traduire pour leur part par plus de travail.
Alors ils ont un statut, pardon, je vous coupe un instant, assez privilégié, avantageux même, hein, retraite à 59 ans, semaine de 32 heures, voilà, les aiguilleurs du ciel ont des salaires aussi qui peuvent avoisiner 5 500 bruts dès l'obtention de leur qualification, quelques années après leur arrivée au centre de contrôle.
Oui, alors je pense que oui. Alors ça, c'est tout à fait intéressant, mais je crois que le point il y a deux éléments là-dessus. D'abord, premièrement, c'est que les contrôleurs aériens sont des gens qui ont un diplôme équivalent à un diplôme d'ingénieur, puisqu'ils sont recrutés par un concours, le même concours que celui pour les écoles d'ingénieurs, après maths P. Donc, c'est-à-dire deux années difficiles un concours sélectif, puis trois années d'études. Donc, je pense qu'on ne peut pas comparer le salaire d'un contrôleur aérien à le salaire d'un contrôleur SNCF, puisque de toute façon, ils n'ont pas les mêmes niveaux de formation, ni non plus d'ailleurs les mêmes contraintes. Ça, c'est le premier élément. Deuxième chose, les salaires. Les salaires des contrôleurs aériens en France, et c'est public, et d'ailleurs, il suffit de regarder, il y a eu des études qui ont été faites par le Sénat et au niveau de l'Assemblée nationale. Les salaires des contrôleurs aériens français sont, je dirais, inférieurs aux salaires des contrôleurs aériens dans les autres pays européens. Donc il faut juste savoir.
Non, mais ce qui interpelle, pardon Jean-Charles, c'est le timing, c'est-à-dire qu'il y a un enchaînement des grèves avec effectivement l'approche des JO, on voit que ça marche pour la SNCF, le lendemain voilà, on a les aiguilleurs du ciel qui prennent le pas, on a la sensation d'être pris en otage, nous les usagers, les contribuables.
Donc deux éléments, je pense que, et pourquoi je réagis, c'est qu'en fin de compte, il se trouvait qu'il y a trois semaines, il y a eu un certain nombre d'articles dans les Échos, le journal des Échos, sur la réforme en cours du contrôle aérien qui détaillait exactement très bien la situation et ce qui est en train de se passer. Ce qui se passait, c'est que les contrôleurs, ils sont en négociation avec la DGAC, enfin la Direction Générale, comment mettre en place ces nouvelles conditions de travail, ces nouveaux protocoles d'accord, cette augmentation des charges, des heures de travail, et également, il faut savoir aussi, d'une réduction des effectifs dans un certain nombre d'endroits. C'était mentionné que un certain nombre d'effectifs vont être supprimés. Donc, comment mettre en place? La DGAC, donc, ce que j'ai cru comprendre, puisque j'ai écouté ce matin dans une autre radio, D'accord ?
Oui.
Allô ?
La
DGAC,
oui,
c'est simple. Globalement, ce qui s'est passé, c'est que, si j'ai bien compris, la DGAC était partie sur une sorte de... Généralement, comme dans toute négociation, on a une sorte de ligne directrice donnant un peu les points. La DGAC est revenue il y a une semaine ou deux semaines avec un protocole qui était complètement différent de ce qu'ils avaient annoncé.
Oui, on comprend, Jean-Charles, on a compris...
Ben oui, alors maintenant, après, vous êtes dans une situation...
On a compris, pardonnez-moi, Charles. Jean-Charles, pardon, du côté des Hauts-de-Seine, que vous expliquiez que les contrôleurs aériens, eux, se battent contre leurs conditions de travail et vous différenciez vraiment le combat des aiguilleurs du ciel à celui des contrôleurs ou des cheminots de la SNCF. Agnès Verdier-Molinier, pour conclure, voilà, il y a deux salles, deux ambiances pour vous, ou on les met dans le même panier ?
Écoutez, moi, j'aurais plutôt tendance à faire la différence entre les coûts pérennes et non pérennes. C'est-à-dire qu'il y a des primes qui sont données à la RATP, à la SNCF, par exemple, qui ont déjà été, ou même aux policiers, ou même dans les hôpitaux, qui ont déjà été négociées. Ces primes, elles sont données. Pourquoi ? Parce qu'il y aura, en fait, un surcroît de travail pendant les Jeux. Et on peut tout à fait comprendre que ce soit assez logique, même si on aimerait avoir un chiffrage global de ce que ça va représenter sur l'ensemble des fonctions publiques, sur l'ensemble de la dépense publique. Bon, ça, ce sont les coûts non pérennes. Là, ce qui me gêne, moi, avec l'accord SNCF, et c'est le cas aussi pour les contrôleurs aériens, c'est que finalement, ils se servent de cette période pour obtenir des choses qu'ils n'auraient pas obtenues sinon, la période des Jeux Olympiques, pour avoir des dépenses pérennes qui vont être payées par l'ensemble des citoyens français pendant des années. C'est ça qui est gênant. C'est-à-dire qu'en plus, on ne connaît même pas les clauses de l'accord sur le contrôle aérien. Autant sur l'accord SNCF,
c'est secret défense,
on connaît
l'instant.
Pas le coût. Autant, attendez, pourquoi ? Comment se fait-il que finalement, une dépense qui va être une dépense publique, de surcroît de rémunération, alors que même Jean-Charles n'expliquait pas assez bien ce qu'ont aujourd'hui les contrôleurs aériens, c'est qu'ils peuvent globalement faire baisser en moyenne 25% de leur temps de travail, où ils continuent à être payés avec un système de clairance où finalement ils sont pas au travail mais ils sont quand même payés. C'est quand même un peu abusif par rapport à la question justement de servir le service public.
Merci beaucoup.
Quand on est payé en face. Donc là, il y a un vrai sujet. Ce sont des dépenses supplémentaires qui vont être payées par les Français pendant des années.
Merci beaucoup Agnès Verdier-Molinier pour ce décryptage très intéressant, directrice de l'IFRAP. Un grand merci à vous. On se retrouve dans quelques instants évidemment sur Europe 1 avec Louis de Raguenel. On va revenir sur cette décision qu'on a apprise il y a quelques minutes seulement. Le Parlement européen a voté de manière définitive la révision de la directive sur la lutte contre la traite des êtres humains. La GPA est désormais reconnue, donc la gestation pour autrui, au même titre que l'esclavage ou la prostitution forcée. Qu'en pensez-vous ? 01 80 20 39 21 tout de suite.
Europe 1 soir, 19h-20h, Céline Géraud.
Allez, on est ensemble jusqu'à 20h avec vous au 01 80 20 39 21. On va parler maintenant de cette information que l'on a appris il y a quelques minutes. Le Parlement européen a donc voté de manière définitive la révision de la directive sur la lutte contre la traite des êtres humains. Et la gestation pour autrui, la GPA, est désormais reconnue au même titre que l'esclavage ou la prostitution forcée. Louis de Raguenel, bonsoir.
Bonsoir Céline, bonsoir à tous.
Merci d'être avec nous. Vous êtes chef du service politique d'Europe 1. C'est une décision qui fait date.
Alors oui, c'est une décision qui fait date. Donc vous l'avez dit, c'est une révision d'une directive qui avait été créée en 2011. Et si on rentre un tout petit peu et très rapidement dans la coulisse de cette décision, tout est parti d'un amendement qui a été déposé par le député européen François-Xavier Bellamy, qui d'ailleurs est tête de liste des Républicains pour ces élections européennes. Et cet amendement déposé par François-Xavier Bellamy expliquait que la GPA, je cite, « fait de la vie d'un enfant l'objet d'un contrat marchand ». Et donc, dès lors qu'il introduisait cet amendement, « la vie d'un enfant fait l'objet d'un contrat marchand », eh bien, c'est considéré comme de la traite d'êtres humains. Vous l'avez dit, au même titre que la prostitution forcée ou que l'esclavage. Et un autre élément sur rentre dans la coulisse de cette décision, c'est une décision qui a été votée avec un large consensus. 563 voix pour, 7 voix contre, 17 abstentions. Ouais. Voilà, donc c'est quelque chose d'important à retenir. Alors ensuite, concrètement, parce que pour beaucoup de Français, tout ce qui se décide à Bruxelles, c'est un peu loin de nous. Les États européens ont ensuite 2 ans pour transposer cette directive dans leurs droits spécifiques. Donc la France, typiquement, on va parler de nous, on va avoir 2 ans pour transposer cette directive, c'est-à-dire introduire un peu à notre manière, peut-être en aménageant certaines dispositions de cette directive, dans le droit français, ce qui a été voté à Bruxelles, parce que c'est une décision contraignante.
Contraignante, mais qui fixe la GPA au même niveau que la prostitution forcée et l'esclavage.
Absolument, mais alors c'est un sujet qui est quand même très complexe, parce que vous allez avoir des cas, par exemple, il y en a déjà, il y en a régulièrement en France, de couples qui ont des enfants par GPA, qu'ils font à l'étranger. Ils reviennent en France et ils demandent à la France des reconnaissances de paternité pour leurs enfants. Et la jurisprudence en France, depuis quelques années maintenant, leur accorde l'autorité parentale et donc la paternité sur leurs enfants. Donc on va se retrouver dans une situation un peu compliquée. Aujourd'hui, la GPA est interdite en France.
Oui.
On est d'accord jusque-là, voilà.
Oui.
Ensuite, le Parlement européen vient de voter cette directive qui donc condamne la GPA et qui la considère comme au même titre que la traite d'êtres humains, l'esclavage, la prostitution forcée.
Ouais.
Et pourtant, un couple qui fait une GPA à l'extérieur des frontières françaises vient, la France accorde l'autorité parentale et le titre de parent aux parents de cet enfant. Et donc, de manière très concrète, cette décision est très très importante, ça fixe un cadre juridique et presque aussi moral, c'est une forme d'autorité. Et pourtant, à l'épreuve de la réalité de la vie et des faits, ça va être très compliqué, je pense,
à mettre en place
juridiquement,
sur notre
territoire. Et donc, très concrètement, que va-t-il se passer ? Est-ce que, je pose la question, je n'ai pas encore la réponse, puisqu'on verra les décisions des tribunaux, et puis on verra de quelle manière sera transposée cette directive. C'est-à-dire que, est-ce que des parents qui ont eu un enfant par GPA à l'étranger vont être poursuivi devant les tribunaux au même titre que quelqu'un qui ferait de la traite d'êtres humains ou de l'esclavage. Voilà, on verra dans la pratique comment ça se passera. Et simplement, je termine avec un tout petit détail. C'est que, par exemple, il y a déjà deux pays de l'Union européenne qui reconnaissent, encouragent la GPA, la Grèce et les Pays-Bas. Je pose la question, de quelle manière ils vont passer de l'autorisation implicite à la condamnation, l'interdiction et donc la sanction.
C'est vrai.
Je ne sais pas.
C'est un vrai sujet. Ludovine de la Rochère, présidente du syndicat de la famille, est avec nous en direct dans Europe 1 Soir. Bonsoir.
Bonsoir, madame.
Merci d'être avec nous. Une réaction sur cette décision, ce vote du Parlement européen concernant la GPA.
Alors écoutez, effectivement, c'est un pas, pour le moment un petit pas, vers l'abolition universelle de la gestation pour autrui. Un pas bien réel parce que c'est la première fois que cette pratique intolérable est intégrée dans une directive européenne. Et c'est vrai qu'une directive européenne est contraignante. Elle doit être retranscrite dans les législations nationales. Néanmoins, hélas, il est précisé la pratique des mères porteuses est une forme de traite humaine quand la mère porteuse est forcée.
Oui.
Cette précision, elle peut changer la donne, elle est ambiguë, mais certains considèrent que dans la GPA, une mère porteuse peut être consentante, là où en réalité, une femme devient mère porteuse du fait de sa pauvreté ou parce qu'elle est manipulée et qu'on lui fait croire que c'est de l'altruisme en oubliant complètement toutes les conséquences et les implications pour elle et pour l'enfant, bien sûr, et qui sont majeures. Mmh. Autrement dit, dans la réalité, une mère porteuse, d'une certaine manière, elle est toujours forcée, mais tout est dans l'interprétation que les législations nationales feront de ce petit ajout quand la GPA est forcée.
Alors donc, justement, ce que disait Louis Dragnel, c'était ça, c'était la complexité pour interpréter, entre guillemets, cette loi et l'adapter dans chaque pays. En France, il va falloir évidemment la préciser.
Alors, à vrai dire, je ne suis pas extrêmement optimiste dans la mesure où il a été aussi précisé autour de ce texte qu'il n'impliquait pas de modifier les législations nationales, c'est-à-dire sous-entendu celles qui interdisent ou qui autorisent.
Oui.
Simplement, on peut penser qu'il y aura, des conditions où il y aura théoriquement une vigilance sur ce qui est visiblement forcé. Moi, j'insiste sur le fait qu'une mère porteuse est toujours une femme manipulée ou payée pour obtenir d'elle ce qu'elle ne veut pas faire. En fait, il est clair, si vous voulez, qu'il faut aller plus loin. C'est un premier pas, mais il va falloir aller plus loin, beaucoup plus loin, puisque cette pratique est vraiment une exploitation de la femme qui est réduite à son utérus. Une chosification de l'enfant, bien entendu, et à vrai dire, un trafic d'êtres humains, à l'évidence, un trafic internationale et malheureusement aujourd'hui à l'échelle de l'Europe et à l'échelle du monde.
Merci beaucoup Ludovine de la Rochère, présidente du syndicat de la famille, pour cette première réaction suite à ce vote du Parlement européen qui donc a décidé que la gestation pour autrui est désormais reconnue au même titre que l'esclavage ou la prostitution forcée. Un dernier mot, Lou Dragnel. Voilà, on vient d'entendre, on suivra évidemment la suite de cette décision. Merci à vous et nous on se retrouve évidemment demain pour de nouvelles aventures dès 13h dans Europe 1 13h et tout de suite évidemment c'est la France bouge avec Elisabeth Assayag.